Restons courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Et avec Philippe Charlez et Jean-François Coulon-Désart, nous recevons Joseph Touvenel, l'ancien vice-président de la CFTC. Et nous parlons avec lui du 1er mai. Entre autres, y a-t-il trop de jours fériés en France? Alors, les statistiques européennes nous donnent raison, hein, Joseph Touvenel, en tout cas à votre article du journal du dimanche. La France compte 11 jours fériés par an. Selon le site européen Toute l'Europe, qui a la réputation d'être plutôt fiable, même s'il est un peu européiste, la moyenne de l'Union européenne est à 12 jours fériés par an. Donc on est un petit peu en dessous. Alors il y a plus de jours fériés à Chypre, hein, avec un total de 15 jours par an. Les Chypriotes, ils célèbrent 9 fêtes religieuses, 2 fêtes nationales grecques, leur propre fête d'indépendance, 2 jours également, 2 jours durant les fêtes de Noël. Et puis ensuite, il y a la Croatie, l'Espagne, la Slovaquie, la Bulgarie, la Roumanie, Malte avec 14 jours. Et les moins généreux, ce sont les Pays-Bas et le Danemark avec 9 jours. Mais en fait, on n'est quand même pas dans les pays, là, c'est là où vous avez raison, qui donnent des jours fériés sans compter, quoi.
Surtout qu'en France, c'est 11. Mais si ça tombe un dimanche? Alors qu'il y a des pays où quand ça tombe un dimanche, ils récupèrent le lundi.
Ah oui.
Dans les statistiques que vous citez, qui sont, oui, vous avez raison, c'est un peu européiste, mais c'est fiable.
Ouais.
Toute l'Europe, là, le site que vous avez vu.
C'est ça.
Et par exemple, sur l'Allemagne, ils vont nous dire, oui, mais l'Allemagne, c'est 9. Oui. Sauf qu'en Allemagne, il y a aussi les jours fériés, les Landes.
Oui.
Les Länder.
Qui s'ajoutent.
Qui s'ajoutent. Et c'est plus 9, ça vient à 12 à 14.
Et ils travaillent pas 35 heures.
Alors, c'est intéressant aussi de voir, par exemple, ce qui est donné sur moins de jours fériés pour les Hollandais. Oui, mais les Hollandais, ils travaillent beaucoup moins que nous. En heures.
En heures.
En heures par semaine et par an.
Ah oui.
Et oui.
Bon.
Et donc, en fait, il y a des équilibres.
Mais ils n'ont rien, les Hollandais. Ils ont des tulipes et des polders.
Ils ont des tulipes, des polders et ils ont un miracle permanent. C'est-à-dire qu'ils exportent en volume agricole plus que la France. Comment est-ce possible?
Parce qu'ils importent et qu'ils exportent.
Exactement.
Voilà.
C'est-à-dire qu'avec l'Union européenne, on nous trompe.
Absolument.
Et ils importent. Et par exemple, les roses, ils font marner des malheureux au Kenya.
Ils importent des roses du Kenya qui vendent après comme des roses
hollandaises. Voilà, ils enlèvent 2 feuilles. Et,
ça devient une rose hollandaise.
J'avais oublié c'est
un scandale.
Ah oui, la Hollande est un pays d'import-export.
Et ça, quand vous voyez la surface hollandaise, il est impossible en volume, ils puissent exporter plus que la France.
Oui, surtout que la moitié est sous le niveau de la mer.
Ouais, en plus. Enfin, il a été gagné par les polders.
Mais donc, pour les jours fériés, vous avez raison, quand on regarde, là j'ai vu encore un truc de l'OCDE qui nous disait...
Donc on n'est pas si riche en jours fériés que
On est dans la moyenne.
Ça c'est pour répondre à tous ceux qui nous disent qu'on en a trop, qu'il faut qu'on travaille plus, notamment pour cotiser plus.
Il faut sans doute travailler plus. Mais
ce constat ne règle pas le déficit de la sécurité sociale.
Vous voyez, il y a quelques années, il y avait toute une polémique, les jours fériés du mois de mai, il y en a trop, machin, j'avais vu que ça réduisait le PIB, je ne sais plus combien, 0,3%, un truc comme ça. Et donc j'avais écrit à l'INSEE, le directeur général m'a répondu très gentiment, lui disant « Voilà, très bien, j'ai bien compris votre étude, je crois, mais comment vous mesurez le gain de productivité généré par des salariés bien dans leur peau, qui ont passé du temps en commun, du temps en famille, à d'autres activités qui se sont reposées ?» Et il m'a répondu « Vous avez entièrement raison, ça joue, mais comme on ne peut pas le mesurer, on n'en parle pas. » Et ben c'est comme l'amour. Il ne nous parle jamais de l'amour. Pourtant, chaque être humain a besoin d'aimer et d'être aimé. Mais on n'en parle pas parce qu'on ne peut pas le mesurer.
Ouais, mais c'est Raffarin qui avait décidé que le lundi de Pentecôte serait travaillé et que la journée serait donnée pour les anciens, c'est ça?
Ça, c'est très intéressant.
Et ça a généré combien d'argent? Un milliard, c'est ça, non?
4 milliards.
4 milliards, oui.
Non,
4 milliards dans la tête.
Dans la réalité, ça génère zéro, la journée de solidarité. Pourquoi? Parce que tout le monde peut le vérifier sur sa fiche de paye, c'est une taxe sur les salaires de 0,3%, prélevée mensuellement. Et donc, dans leur système, la journée où on oblige un salarié à travailler sans être rémunéré, donc il travaille et il gagne zéro. 0,3% de zéro, ça fait toujours zéro. C'est-à-dire que la seule journée qui ne rapporte rien à la solidarité dans leur système, c'est la journée dite de solidarité. C'est quand même magnifique. Sinon, ils ont augmenté. Ils ont mis une taxe supplémentaire, 0,3%. Et cerise sur le gâteau, comment ça se passe? Alors, une grande surface, on va demander à une caissière de venir travailler un jour, peut-être même un jour férié, sans être payée. d'accord ? À la SNCF, dont je rappelle que le patron, c'est l'État, actionnaire à 100%, comment ça se passe cette journée dite solidarité ?
Eh bien, les agents de la SNCF sont censés travailler 3 minutes,2 en plus par jour.
Ah bon ? Ça, c'est
voilà.
Drôle.
Ça, c'est le bon patron de l'État. C'est un scandale.
Le principe, c'est les sociétés d'État à la française.
C'est un vieux principe. Tout travail mérite salaire.
Ouais.
Alors, de notre travail, on cotise, ça c'est normal. Mais en plus, là, enfin, le plus ridicule, c'est la seule journée qui rapporte rien, c'est justement celle du
Alors, sur ce, je peux
oui,
sur ce sujet-là, justement, puisque c'est un, c'est quelque chose qui est fortement débattu et qui, à mon avis, va être un point central lors de la présidentielle de 2027. C'est donc de rapprocher le salaire brut du salaire net, ou le salaire net plutôt du salaire brut. Puisqu'on dit qu'en France, comparé à nos concurrents, le salaire brut est relativement élevé, mais le net est beaucoup plus faible. Voilà. Et donc, quelles seraient vos arguments, vos préconisations pour rapprocher le salaire net du salaire brut ? Je reviens aux jeunes, parce que chez les jeunes, c'est vraiment une question récurrente.
Et bien sûr, et vous avez parlé du logement, qui est une question très importante. Alors, on en a parlé déjà, c'est qu'à partir de l'heure supplémentaire, elle est défiscalisée. Ça permet que le salarié qui travaille plus longtemps, il touche plus, et l'entreprise, le coût n'est pas plus élevé.
Enfin, il est obligé de faire des heures supplémentaires à ce moment-là.
Oui, il peut travailler 36 heures. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si on demande à un salarié de faire des heures supplémentaires, il n'a pas le choix. Hein. C'est obligatoire.
Ah, c'est oublié, d'accord.
Il peut pas
contrat
refuser.
De subordination, ce qu'a l'air d'ignorer un certain nombre de députés et ce qu'a l'air d'ignorer M. Lénard. C'est un contrat de subordination et c'est normal que ce soit le chef d'entreprise qui organise le travail et les horaires de travail. Mais ça veut dire que si on veut donner plus, il faut un, s'attaquer à ceux qui ne travaillent pas et il faut deux, faire des économies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait rentrer sur notre territoire des centaines de milliers de personnes qui ne travaillent pas ensuite, qui sont à la charge de la collectivité.
Absolument.
C'est une évidence. On commence par là.
L'écrasante majorité de ceux qui...
Mais bien sûr, quand on regarde l'immigration étrangère...
L'immigration extra-européenne, comme on dit.
Absolument.
La majorité ne travaille pas.
Et quand on nous dit, par exemple...
Le chômage est beaucoup plus importante.
Bien sûr. Bien plus élevé. Et quand on a un président de la République qui nous dit « Oui, mais on a besoin de médecins. » Mais monsieur le président, on n'a pas des Français qui peuvent devenir médecins ? Et en plus, ces gens-là qui sont...
On les écarte dès la première année de médecine.
Exactement. C'est un véritable scandale.
Par milliers.
C'est un scandale. Et en plus,
qu'ils n'ont pas le droit de redoubler.
Puisqu'on nous dit qu'il faut penser au malheur du monde, et c'est vrai. Il ne faut pas être insouciant du malheur du monde. Mais quand des médecins sont formés en Algérie, au Maroc, en Afrique.
Il faut bien y rester pour leur population.
La situation sanitaire dans ces pays est merveilleuse. Ils n'ont pas besoin de médecins. Ça s'appelle du colonialisme à l'envers. Et moi, je suis quand même assez étonné.
Peut-être que le médecin algérien travaillant en France est mieux payé que travailler en
Algérie. Ah, mais il est mieux payé. Il ne travaille pas dans une dictature, parce que l'Algérie est une dictature. D'accord. Mais à la limite, depuis qu'ils ont pris l'indépendance, c'est pas vraiment mon problème.
C'est pas vraiment
mon problème prioritaire, c'est redresser l'économie française. C'est nous désendetter, c'est faire que des jeunes puissent se loger décemment. C'est ça mon problème.
Alors, il y a une théorie pour joindre ce que disait Philippe. Il y a une théorie intéressante pour augmenter les salaires. Et elle est assez simple. C'est vous baissez les charges salariales de 10%. Donc ça donne 10% de plus sur la feuille de paye. D'accord ? Vous faites la même chose pour les charges de l'entreprise. Donc les produits sont 10% plus compétitifs. Alors vous allez me dire, l'État a manque à gagner. Et là où la théorie est intéressante, c'est que... qu'on refait une TVA, une TVA vraiment sur mesure. Et la théorie de ces économistes disent que l'État est gagnant au final, parce que vous relancez la consommation et que l'État est gagnant. Bon, qu'est-ce que vous en pensez ?
Là, je ne suis pas assez affiné sur le sujet pour vous dire, ça paraît... Moi, ça demande à être regardé plus près. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose...
On invitera Agnès Verdier-Molinier pour lui demander ce qu'elle en pense.
Oui, je ne suis pas sûr qu'elle donne les meilleures réponses, Agnès Verdier-Molinier. Posez-lui la question
Comptes sociaux,
de l'exploitation familiale.
Oui,
d'accord.
Bon.
Moi, j'aime bien les gens qui sont les deux pieds sur terre et qui, voilà. Mais,
Je sais pas très bien ce que vous voulez dire.
Posez-lui la question de l'exploitation familiale dans le vignoble. Ce qu'elle est devenue.
Je voulais vous donner.
Philippe
Charlez.
Une des priorités pour pouvoir baisser ses charges, c'est faire des économies. Et on voit très bien que, effectivement, la protection sociale, c'est quelque chose de nécessaire. Mais encore faut-il que ce soit cadré. Plus d'un milliard maintenant, ça va être 1,4 milliard maintenant, nous coûte le fait que table ouverte pour les étrangers qui sont en situation irrégulière pour les soins médicaux. C'est-à-dire qu'un étranger en situation régulière, un brave Français, n'a pas les mêmes droits pour les soins médicaux que des gens qui sont sur le territoire national de façon irrégulière.
Absolument.
Et qui se font... Mmh. Alors, je n'ai pas inventé, j'ai une épouse qui était enseignante et qui a vu des enfants, on ne va rien reprocher à ces enfants, qui se sont fait, donc qui étaient issus de personnes en situation irrégulière sur le territoire national, qui se sont fait recoller les oreilles.
Oui.
Et on a payé. Oui. Ben moi, je pense que ce système-là, il y a 1,4 milliard d'économies à faire. D'abord, on le supprime. Évidemment, on conserve ce qui existe. C'est-à-dire que quelqu'un en France qui a un grave accident, une grave maladie, il est pris en charge, qu'il soit étranger ou pas. Et ça me paraît normal pour les grosses choses. Mais enfin, recoller les oreilles, refaire une dentition, etc., on se moque du monde.
Mais ça va plus loin que ce que vous dites. Si vous êtes un garçon et que vous voulez devenir une fille, en étant étranger et sans papier, vous, on vous paye l'opération.
Mais d'ailleurs, on rembourse maintenant ces opérations.
Hallucinant.
Et on les rembourse. Ça c'est pas de la maladie.
On s'éloigne du 1er mai. Philippe Charlez.
Alors malheureusement, ce que j'allais dire, non. C'était deux chiffres et je voulais savoir ce que ça vous inspire, parce que c'est très actuel. Je me suis amusé à prendre le prix du litre d'essence en 1960 et de l'actualiser par l'inflation aujourd'hui. Et j'arrive à 2 euros le litre. Et j'ai fait la même chose avec le prix de l'immobilier à Paris et j'arrive à 1000 euros le mètre carré à Paris. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Et ça m'inspire qu'on l'a tous vu, qu'il y a eu la bulle immobilière, etc. Mais
on ne parle par contre que de la bulle pétrolière.
Qu'il y aura une mécanique qui nous amènerait...
Je dis que le logement est vraiment l'une des
clés. Pourquoi le logement devrait être prioritaire? Parce que c'est un des droits essentiels de pouvoir se loger et se loger décemment. Mais on avait un système, par exemple, pour les salariés qui s'appelait le 1% patronal. Qui était bien géré et qui fonctionnait bien.
Ça a été supprimé ?
Mais bien sûr, c'est l'État qui a mis la main dessus. Maintenant, c'est plus 1%, c'est je ne sais plus combien. Et de toute façon, c'est plus géré pour les salariés et géré par les représentants des salariés, représentants patronaux et représentants syndicaux. C'est l'État, en fait.
Donc ça a disparu dans le tonneau des Danaïdes.
Oui, et donc sont logés des gens qui ne sont pas du tout salariés, etc. C'est-à-dire qu'on a pris, comme ça fonctionnait et qu'il y avait de l'argent, l'État a mis la main dessus. Si on veut redonner aux travailleurs français des possibilités plus faciles de se loger, retrouvons que ce système et que l'État s'occupe de ses affaires et ne vienne pas. J'ai été administrateur.
On en revient toujours à ça, que l'État s'occupe de ses affaires.
J'ai été administrateur
dans
un de ces systèmes. Et mon premier conseil d'administration, il y avait la possibilité de construire des logements, un achat de terrain, un projet, etc. Et on construisait des logements sociaux. Très bien. Et le représentant du préfet qui était là, il le fait dire. Et à la fin, le représentant du préfet dit « Oui, bon, d'accord, mais très bien. Mais vous en donnez combien à la préfecture ?» C'est-à-dire qu'une opération immobilière payée par nous, par les entreprises. Donc, pour moi, l'entreprise, c'est à la fois les salariés et les patrons. Hein, c'est ça, l'entreprise. C'est le monde du travail. Eh bien, l'État, son représentant, dit « Je vous autorise à faire votre opération immobilière. » Mais moi, vous me donnez combien ? Et après, l'État loge qui veut, etc.
Alors, on est en pleine socialie à la française.
Absolument.
Voilà. Ajoutez à cela, Marc, mais la cupidité aussi...
très vite, parce que...
La cupidité tout à chacun.
On parle de nos amis LFI.
Quand vous prenez les villes de bord de l'eau, les gens ont vendu des sommes folles, les natifs ont vendu des sommes folles, parce que c'était beaucoup, beaucoup d'argent, et puis après, ils s'étonnent de ne plus trouver à se loger à bon prix. Il y a aussi ce côté-là, quand même.
Dernier point rapide. Toutes les réglementations, les lois et les machins sur le logement. Ce qui fait que moi, quand j'étais jeune, j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans et demi. À 19 ans, j'ai pris mon indépendance et je logeais dans une petite chambre, etc. Peut-être que les fenêtres fermaient mal, mais je me logeais. Aujourd'hui, impossible avec les réglementations. Donc, même un jeune qui se dit...
ne louera pas les fenêtres qui manquent.
Évidemment, le propriétaire...
Alors, le gouvernement est en train de revenir sur les réglementations sur le EFG. Je dis simplement oui, ça, tout sont... simplement parce qu'ils savent que ça va sortir du marché locatif 10 millions de logements et créer une bulle immobilière absolument.
Mais ils reviennent doucement, mais c'est un vaste débat.
Plus la crainte du squat.
On va laisser Marc continuer.
Voilà, non, parce que je voulais qu'on revienne au 1er mai, mais vous savez, je suis un peu obsessionnel.
On y revient tous les ans, Marc.
On y revient tous les ans, mais là, en l'occurrence, nos amis de LFI ont eu des idées. Ils ont des idées pour le 1er mai. Antoine Léaumont, qui est député LFI, voudrait lui supprimer un certain nombre de jours fériés, notamment des jours fériés catholiques. Et puis il voudrait en ajouter d'autres. Et on l'écoute, c'était sur Sud Radio, c'était en avril 2025, il y a un an.
Ah, le 1er mai, moi, c'est un jour qui est un jour sacré pour nous. C'est c'est la fête des travailleurs.
Déjà,
moi, s'il faut supprimer des jours fériés, il y en a un certain nombre d'autres qui sont associés à la question de la religion qu'on pourrait éventuellement modifier. Il y a quand même d'autres jours à modifier. Non, mais je laisse libre. Moi, je propose d'en rajouter. J'ai déposé une proposition de loi pour faire un jour férié en plus le 18 mars, qui est le point de départ de la Commune de Paris. Je trouve que c'est une grande date de notre histoire nationale.
Et voilà, donc notre ami Antoine Léonomant, député LFI, voudrait ajouter des jours fériés, éventuellement supprimer les jours fériés catholiques et en ajouter d'autres. Donc il propose d'en ajouter 7, c'était le 7 avril dernier, en conférence de presse à l'Assemblée nationale.
On explose la norme européenne.
Voilà, ils ont proposé d'autres jours fériés. Alors je voulais vous les citer, vous réagirez après. Donc ils proposent d'ajouter le 16 janvier. Alors pourquoi le 16 janvier? Parce que c'est une référence à la publication en 1982 de l'ordonnance généralisant la cinquième semaine de congés payés. Voilà, donc pour fêter la cinquième semaine de congés payés. Le 4 février, cette fois, ça sera en commémoration du vote en 1794 par la Convention nationale de l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. Alors, il y a aussi le 18 mars. C'est en l'honneur de la Commune de Paris, en hommage aux morts de la répression pendant la semaine sanglante. Le 26 juin, en mémoire de la sanglante répression qui s'est abattue sur les ouvriers mobilisés lors des journées de juin 1848. Le 30 juillet, alors là, cette fois, c'est pour célébrer les amitiés. L'amitié est une notion politique au potentiel révolutionnaire, écrit la France insoumise. C'est vrai, c'était extraordinaire.
Ils ont écrit ça ?
Oui, ils ont écrit ça. Je cite entre guillemets. Le 4 août, là, cette fois, ça sera en référence au vote en 1789 par l'Assemblée nationale de l'abolition des privilèges féodaux, des nobles et des membres du clergé. Et puis le dernier, je vous le cite pour la bonne bouche, en l'honneur de la proclamation de la Première République, avec l'objectif de valoriser ce moment marquant de notre histoire commune, etc., qui marqua le début de la fin de siècles d'oppression féodale. Voilà ce qui est écrit.
Alors moi,
il ne manque pas d'idées.
Je souhaiterais, si vous voyez M. Léaumont, de lui glisser dans l'oreille que moi, je souhaiterais encore en rajouter une. C'est le 21 juillet, parce que c'est la fête nationale belge.
Ah, mais alors pourquoi pas?
On a annexé la Belgique, ça y est.
Mais il faut que les Belges acceptent le 14 juillet à ce moment-là.
Et on peut proposer aux Belges le 14 juillet.
On est dans le délire.
Il y a deux choses qui sont intéressantes. La première chose, c'est la lâcheté. C'est-à-dire, il commence par dire on peut supprimer des fêtes qui ont connotation religieuse. Après tout, c'est son droit de le dire. Et quand on lui demande lesquelles, il n'y a plus personne. Ça s'appelle de la lâcheté. Il faut qu'il nous le dise, il veut faire interdire les crèches, il veut faire interdire Noël, il faut faire interdire Pâques, etc. C'est-à-dire qu'il veut gommer l'histoire de France.
C'est exactement ça.
Et la remplacer par une autre histoire.
Alors, ce qu'il propose, c'est intéressant, je vais prendre que deux dates. La première, c'est le 18 mars, la Commune. La Commune, c'est une abomination. C'est une abomination révolutionnaire avec des assassinats.
De prêtres, d'évêques.
Notamment de prêtres, d'évêques, mais du bon peuple aussi. C'est-à-dire que c'est une dictature révolutionnaire et marxiste. Et de l'autre côté, effectivement, du côté des Versaillais, c'est pas beaucoup mieux. Où, quand ils ont pris le dessus, ils ont fusillé à Tir-Larigot. C'est exactement ce que je rejette, cette violence des uns et des autres. Et je ne vais pas. Les communards, c'est une dictature. Faut qu'on ait conscience, quand on nous vante la Commune, c'est une dictature qui a fait couler le sang.
Et ce sont eux qui ont le plus abîmé Paris. Ils ont mis le feu à l'hôtel de Salm, le Louvre a été sauvé in extremis, c'est eux qui ont le plus massacré Paris.
Les archives nationales brûlées.
Les archives nationales, le palais...
Je m'étonne de votre étonnement que LFI ne soit pas admirateur, puisque c'est un mouvement révolutionnaire. Il est logique qu'ils admirent la commune.
Oui, mais il y a de la cohérence. Après la lâcheté, il y a de la cohérence.
Absolument.
Mais il y a de la lâcheté, il y a de la cohérence, mais il y a aussi de l'ignorance. Quand tu nous parles du vote de la cinquième semaine de congé payé, mais avant la Révolution française, les salariés, les travailleurs français, tous ceux qui travaillaient, alors c'était essentiellement rural, mais y compris dans la ruralité, où les ouvriers, les artisans, les commerçants avaient plus de jours de repos que les cinq semaines de congés payés, avec toutes les fêtes religieuses qui étaient les fêtes nationales et locales, et c'était respecté. Camarades, regarde l'Ancien Régime.
Allez, on se demandera tout à l'heure si les Français vont s'arracher le rapport à l'oncle qui paraîtra lundi dans les 400 pages, je crois que c'est plus de 400 pages du rapport à l'oncle qui a fait tant de bruit. Mais auparavant, deux mots d'auditeur. Comme le dit votre invité, je pense qu'il a raison sur le fait que les entreprises peuvent trouver elles-mêmes des solutions pour ouvrir ou non le 1er mai. Il est par contre bon que le rappel des réalités historiques sur l'influence de la chrétienté pour améliorer le sort des travailleurs soit effectué. C'est ce que a fait Joseph Touvenel, brillamment. Ce n'est pas le fait de travailler ce jour du 1er mai qui peut relancer l'économie, mais le temps de travail tout le reste de l'année et arrêter le système du SMIC qui paupérise tous les petits travailleurs. Voilà, c'est un ancien employé, indépendant et employeur, qui nous écrit ces mots.
Vous pourriez réagir peut-être là.
Oui,
sur,
oui.
Joseph Touvenel.
Si on est attaché à la valeur travail, ça veut dire que tout ce qui a une valeur a un prix. Et ce prix, il a été peut-être défini au Moyen-Âge, au XIIIe siècle, par un étranger, un Italien, il s'appelle Saint Thomas d'Aquin, qui disait que chacun, de par son labeur, doit pouvoir vivre dignement, lui, sa famille et épargner. C'est le respect du travail, c'est-à-dire que quand je travaille, je dois pouvoir vivre dignement de mon travail. Ce qui veut dire qu'on a besoin d'un socle qui s'appelle le salaire minimum, et au-dessus, c'est-à-dire que chacun puisse vivre dignement de son travail. C'est vraiment un but, un objectif dans la société, pour la vie économique et pour la vie sociale.
Oui, mais pour cela, il faut que nos dirigeants ne mettent pas les dix travailleurs en concurrence avec d'autres travailleurs
Absolument.
Du monde entier qui sont payés 20 fois moins.
Et puis, non. Je dirais aussi, pour enfoncer le clou, c'est qu'aujourd'hui, compte tenu du prix du logement, est-ce que le SMIC, à son niveau actuel, permet de vivre dignement ? C'est discutable.
En tout cas, dans les grandes villes, non.
Dans les grandes villes,
c'est impossible. C'est ça qui est socialement...
Et pourtant, je vous dis que je suis plutôt un libéral. Donc,
mais c'est absolument anormal.
Un libéral intelligent.
Merci, ouais, Marc.
Vous avez, moi, je suis un libéral aussi, parce que je suis un libéral au sens de pour la liberté d'entreprendre, pour la liberté du commerce, pour ces libertés-là.
Oui, absolument.
Encore que, comme toutes les libertés, si on ne veut pas que ça soit uniquement la loi du plus fort, il faut qu'il y ait un encadrement. Le tout, c'est que cet encadrement soit raisonnable. Et peut-être pas figé dans le temps. Parce que les choses évoluent. Et les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui ne sont pas forcément ceux qu'on aura demain. Et donc, il faut avoir cette capacité à faire évoluer les choses en fonction aussi des circonstances, avec des grandes bases. La grande base, tout travail mérite salaire, un salaire qui permet de vivre dignement. Mais comme ça, Thomas d'Aquin était quelqu'un qui réfléchissait bien, il a aussi théorisé... après le juste salaire, sur le juste prix, en disant il est normal que les prix puissent évoluer, qu'il y ait l'offre et la demande, et que ça fasse évoluer de la concurrence. Mais il doit y avoir deux bornes. Première borne, ce n'est pas parce que j'ai de l'eau et que quelqu'un meurt de soif que je peux lui vendre à n'importe quel prix.
Au prix de sa vie.
C'est-à-dire une borne morale. Deuxième borne, en disant si on veut le juste salaire, alors il faut payer un juste prix. C'est-à-dire qu'il faut que l'artisan ou celui qui rend un service, celui qui fabrique ou qui rend un service, soit justement rémunéré pour le travail qu'il fournit.
Acheter français.
Eh bien, on est loin du système dans lequel on vit aujourd'hui et dans lequel vit notamment l'Union européenne, par exemple.
Absolument. Et nous sommes dans la sagesse, c'est le Moyen-Âge, 13e siècle, Saint Thomas d'Aquin.
Voilà, voir nos agriculteurs qui s'échinent comme des ours pour perdre de l'argent
absolument.
Chaque année. Et moi qui suis fils d'agriculteur, je peux en parler. Un autre auditeur nous donne ce petit rappel historique, mais que vous avez fait, cher Joseph. Je rappelle que les ancêtres de LFI sont des communards. Nous sommes en 1871. Savez-vous comment le pouvoir de l'époque s'en est débarrassé ? Et il répond, c'est Monsieur Thiers. Et de fait, vous les avez mis dos à dos tout à l'heure.
Qui était le premier président de la Troisième République.
Absolument. Et donc, quand il célèbre la République, moi, je suis prêt à célébrer la République, mais ne pas oublier aussi ce qu'a fait la République au niveau social. Elle n'a pas tout construit, loin de là. Elle a construit des choses. Et Monsieur Thiers, il a été avec les Versaillais à faire fusiller, y compris aussi des innocents.
Il avait un nom difficile à porter parce qu'il s'appelait Adolphe en plus.
Oui, enfin à l'époque.
Mais c'était un très bon historien napoléonien. Très bon historien napoléonien, Monsieur Thiers. Oui, son histoire du consulat et de l'Empire est remarquable.
Alors, je sais pas si on se dit Thiers, mais on sera beaucoup pardonné.
Est-ce qu'on dit Thiers ou Thiers ?
Thiers. Monsieur Thiers. Allez, on va abandonner Monsieur Thiers. Nous aurons tout à l'heure notre clin d'œil culture. Mais d'abord, je voulais qu'on parle de ces Français qui vont sans doute s'arracher le rapport à l'oncle.
Reste en Courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Allez, Joseph Touvenel reste avec nous. Je suis heureux qu'il reste. C'est un bon débatteur.
Non, non, mais surtout que je vais vous surveiller. D'ailleurs, j'ai une âme de commissaire politique.
Ah, voilà. Très bien. On adore les commissaires politiques, nous, ici. Donc, on a beaucoup parlé de ce rapport à l'oncle. Vous le savez, on l'a toujours pas vu, et pour cause, il sera disponible ce lundi 4 mai à tous les Français qui s'intéressent à la question, et ils sont nombreux parce que jamais une commission parlementaire n'avait suscité autant de reprises, autant d'intérêt médiatique. Les audiences des articles de Boulevard Voltaire, entre autres, qui se penchaient sur cette commission, en témoignent. C'était absolument incroyable, ça a passionné les Français. C'est un rapport phénomène qui pose donc quelques questions. D'abord, ce rapport a échappé de justesse à la censure, à l'ancienne, ce qui pose quand même quelques questions. Ensuite, France Télévisions se remettra-t-elle d'une telle charge face au grand public ? Deuxième question. Troisième question, maintenant, quelle suite à donner à ce rapport à l'oncle ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il y a des réformes à faire ? Et quatrièmement, accessoirement, est-ce qu'il faut privatiser tout ou partie de France Télévisions ? Parce que ça fait partie du débat. Alors, je vous propose qu'on reprenne ces quatre questions les unes après les autres. Et d'abord, peut-être, est-ce que ce rapport parlementaire, à votre avis, sera le plus lu de l'histoire parlementaire, de l'histoire des rapports parlementaires, en fait, récente ?
Alors, ce rapport...
Jean-François Coulon-Desart.
Oui, alors, ce rapport, il a échappé, vous l'avez dit, Marc, à une voix près, finalement, aux oubliettes. Parce que si jamais il n'avait pas... Deux voix, pardon. Ouais, si jamais il n'avait pas été...
8 contre 10.
Voilà. Oui, mais si c'était égalité, c'était pareil. Si c'était égalité, messieurs, c'était égalité, 11-11, le rapport n'était pas publié.
D'accord.
Le rapport passait aux oubliettes et tout était détruit.
Oui.
Dans l'histoire de la 5e, si je ne dis pas de bêtises, il y a eu un rapport qui est passé comme ça, qui n'a pas été publié. Et c'est un rapport, comme par hasard, sur le financement des syndicats.
Absolument, vous avez
c'est
raison.
C'est bien ça ?
Je m'en rappelle bien. C'est
Et qu'est-ce qu'il y avait dans ce rapport ?
C'est un scandale,
Monsieur Touvenel.
Je l'ai dit.
Il y avait quoi dans ce rapport ?
C'est pas vous qui l'avez trappé, quand même.
Moi, j'ai pas pu le voir, puisqu'on n'a pas pu le voir. Mais ce qu'on sait, d'abord, c'est un scandale. Voilà. Je l'ai dit à l'époque, donc je peux le redire maintenant. Le terme de rapport sur le financement des syndicats, dans le grand public, est mal compris. C'est le financement de tous les syndicats, de salariés et patronaux. Et il y a eu un lobbying, alors, des syndicats de salariés aussi, mais un lobbying encore plus fort du côté patronal. Et je pense plutôt pas vraiment à ce qui s'appelle maintenant la CPME, mais plutôt ce qu'on appelle le MEDEF, notamment parce que du côté de la métallurgie, il y avait quelques facéties avec des financements sous la table à des organisations syndicales.
Oui, bien sûr, on a vu le scandale de l'UMM.
Mais absolument. En fait, c'était très malsain et il aurait fallu sortir ce rapport. Moi, je suis très attaché au syndicalisme. Mais s'il y a des choses négatives qui sont faites, il faut nettoyer les écuries de GIAS. Point barre, on s'en sortira mieux.
Je ne suis pas sûr que ça ait été complètement fait.
Non, mais alors
vous aviez aussi noir sur blanc, ou alors il a loupé son rapport, le financement d'une partie des fêtes du Parti communiste par EDF, SNCF, etc.
Bien sûr.
Et l'humanité.
Oui, absolument.
Jean-François Coulon.
Alors voilà, donc ce rapport, il revient de loin, si j'ose dire. On a tous hâte d'être lundi matin pour voir ce qu'il y a dedans, même si les pistes du rapporteur, elles ont un peu fuité quand même, etc.
Oui, mais enfin, il y en a 80.
Non, mais il y en a 80. Gardons en service public, la réponse est oui. Maintenant, il faut tout remodeler. Il faut fusionner certaines chaînes. Il faut interdire les transferts, notamment comme je crois que c'était Madame Garrigan ou Bariban. Je ne sais plus qui s'occupait des programmes sur France Télévisions.
Darrigan.
Et qui les donne à une boîte production pour les fabriquer, ces programmes, très bien. Et puis, elle s'en va, elle prend 400 000 euros, puis elle se retrouve dans cette boîte de production. Donc tout ça, il faut qu'il y ait des frontières étanches, quoi. Le rapport le dit. Mmh. On va pas rentrer dans le détail, parce que ça serait beaucoup trop long et peut-être un peu fastidieux.
Sur la censure, d'abord.
Pour ceux qui nous écoutent, par la censure, ils ont raté leur coup. Ils ont raté leur coup. Ils voulaient tous. Et Dieu sait s'il y a eu des pressions énormes, et peut-être même au plus haut niveau de l'État, peut-être même. Je n'affirme rien, mais peut-être même, eh ben, le coup il est raté. Voilà, le rapport il sort. Mmh. Mais c'est une bonne nouvelle.
Mmh. Absolument. Sur la censure, Philippe Charles, ça vous a surpris quand même? Est-ce qu'on aurait eu ça en Belgique, par exemple, des débats pour savoir s'il fallait publier ou non un rapport?
Ah, je ne pense pas, non. La société belge, et spécialement la société suisse, sont des sociétés qui sont quand même assez démocratiques. Et donc, la censure, elle vient quand même aussi... La censure, elle vient quand même aussi un peu de... La Ve République avait a initialement un côté censure. Il faut quand même savoir qu'au départ, l'ORTF était quand même fortement... Vous avez dû connaître ça, Jean-François Coulon-Désart, était quand même fortement censuré.
À l'ORTF, non, j'ai pas connu, là. J'étais enfant, non, merci.
Pas encore connu l'ORTF.
Jean-François, il a connu la censure sous Napoléon III.
Au moins. Au moins.
Mais on sait que le...
Ministre de l'Information, c'était...
Le ministre de l'Information, c'était... qui a écrit le livre sur la Chine.
Sur la Chine. Alain Perfit.
Regardez le programme du 20h.
Et qu'Alain Perfit... La gauche aime beaucoup rappeler ça. Le programme du 20h. Non, mais c'est une réalité.
C'est une réalité.
C'est une réalité. Donc, ça veut dire que globalement, dès le départ, il y avait une chaîne. Donc, ce que je veux dire, c'est que la censure, il y a quand même un peu de censure avec la.
Il s'agit d'un rapport parlementaire.
Mais le rapport parlementaire, on a dit que c'était une exception, sauf ce rapport sur le financement des syndicats. Je crois que ça aurait été un... Je pense réellement que si le rapport n'était pas sorti, c'était 5% de plus pour le Rassemblement National.
Ah oui, c'est probable. C'est probable. Moi, j'ai trouvé ça, mais Joseph Touvenel, vous allez nous dire ce que vous en pensez, mais moi, j'ai trouvé ça absolument extraordinaire qu'en 2026, alors qu'on croule sous les réseaux sociaux, que tout est transparent, que c'est d'une facilité absolument incroyable de publier ce rapport, de redonner les 80 résolutions, tout serait sorti, c'était absolument évident. Enfin, personne ne doute que l'ensemble du rapport serait sorti aussitôt. Il y aurait toujours eu quelqu'un pour le publier. Par ailleurs, il y a eu des débats pendant 4 mois qui ont tous été diffusés sur la chaîne parlementaire, LCPAN, qu'il y a eu des articles qui ont retraduit tout ça. Enfin bref, ça a été, jamais aucune commission d'enquête n'a été aussi couverte que celle-là. Qu'on puisse imaginer qu'en votant contre la publication du rapport, on allait enterrer l'affaire, je trouve ça... totalement surréaliste. On a un siècle ou deux de retard. On est sous la censure, sous Napoléon III, quoi.
Oui, mais enfin, rassurez-vous, il ne se passera rien dans les mois qui viennent, parce qu'il y a des élections présidentielles, ça ne nous a pas échappé, ce dossier ne bougera pas avant, si tout va bien, avant 2027. Hein. Il ne se passera rien. Et encore. Voilà. Donc...
Oui, c'est certain. Alors, ensuite...
Parce que les rapports sortis et enterrés par la suite, il y en a eu beaucoup.
Ben, c'est le principe du rapport, oui.
Mais on peut remercier les réseaux sociaux,
Joseph Touvenel,
qui ont leurs inconvénients, mais là, pour étouffer un rapport aujourd'hui comme celui-là, ça devenait impossible grâce aux réseaux sociaux qu'on fait un lobbying. On a vu la montée en puissance de ce qui concernait ce rapport, à juste titre. Juste un point sur censure de la Ve République, très bien. Suisse, je ne connais pas. Belgique, aujourd'hui, ça censure. Aujourd'hui, en Belgique, la censure est très forte.
Sur les médias.
Sur les médias.
Il y a plein d'exemples.
Depuis quelques années...
Philippe Charles est belge, le dis pour nos auditeurs.
Non, je ne suis plus... J'étais belge.
Alors, il est né belge, c'est ça ?
Je suis né belge et j'ai perdu ma nationalité belge en devenant français parce que les Belges n'admettent pas la double nationalité.
Voilà, ce en quoi ils ont tout à fait raison. Bon. Bienvenue.
Mais il y a une vraie censure sur les médias belges aujourd'hui. Et alors, ils sont, on va dire, une autocensure, mais enfin, c'est quand même une règle qui se sont imposées.
Disons, ça dépend quelle chaîne. Il y a des chaînes non censurées qui ont été menacées à l'heure actuelle, comme la chaîne LN24, qui effectivement a été assez pluraliste et a été menacée. Mais il y a aussi, du côté de la Belgique, une très forte pression de la gauche sur les médias.
Ouais, c'est ça.
il y a le même phénomène en Belgique. Il y a le même phénomène en Belgique que ce qui s'est passé en France, c'est-à-dire que la gauche social-démocrate s'est complètement marxisée.
Allez, je voulais qu'on revienne à France Télévisions. Deuxième question, France Télévisions se remettra-t-elle d'une telle charge face au grand public? Elle a quand même, on a vraiment dévoilé un poteau rose terrible. Philippe Charlez.
Ça, je pense que c'est compliqué et que la meilleure voie aujourd'hui pour, pour percer l'abcès, c'est vraiment la privatisation. Alors, je sais qu'on en avait déjà discuté. Vous connaissez beaucoup mieux les médias que moi, Jean-François Coulon-Desart, et que vous étiez partisan de maintenir quand même une ou deux chaînes, les chaînes internationales de France 24 dans le carcan.
Ou RFI, parce que, ou Radio France Internationale, qui est finalement une émanation de la diplomatie française, notamment en Afrique. Alors c'est peut-être un peu moins vrai maintenant que les réseaux, en quoi que les réseaux sociaux c'est aussi un canal de diffusion.
Même la chaîne parlementaire.
Ou la chaîne parlementaire. On ne peut pas avoir une politique qui serait verte et que la radio dise c'est noir, c'est pas possible. Il faut que ça reste, il faut une cohérence. Donc l'État a besoin d'avoir des outils de communication qui soient, mais ça ne veut pas dire de la censure. Ça veut dire que...
Non, ça veut dire qu'on maintient quelques canaux sur l'ensemble.
Voilà, c'est les canaux, c'est la prolongation d'une politique étrangère vis-à-vis.
Il y a certainement
mais ça, c'est France Média Monde, c'est une centaine de millions d'euros.
Comparé aux 4 milliards, on n'y est pas.
Sur les 4 milliards, donc c'est vraiment une goutte d'eau.
La gabegie de France Télévisions, vous savez, moi je me souviens quand j'étais à la 5, celle de Robert Hersant, on était 80 journalistes et on damait le pion de la rédaction de France 2, il y avait 380 cartes de presse. De leur côté, nous on était 80 et on les mettait mina tous les jours. Donc il y a des gains de productivité à faire, mais alors là, étonnant.
Je rappelle que c'est un peu moins de 9000 salariés, France Télévisions dans l'ensemble. France Inter, c'est 3500. Alors on me dira à France Télévisions.
C'est l'armée mexicaine, ils sont tous rédacteurs en chef.
Ils auront raison que c'est pas tout à fait pareil, qu'il y a des chaînes locales à France Télévisions, France 3 Limousin, France 3 Lorraine, etc.
Mais est-ce qu'on a besoin d'avoir deux orchestres à Radio France?
Mais voilà, c'est tout le problème.
J'ai pas la réponse.
Pourquoi France, Jean-François, a besoin de financer des antennes locales partout? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt les donner aux quotidiens régionaux qu'on aurait bien besoin, par exemple? Et on pourrait dire ça pour pas mal de choses. Bref,
je pense qu'il faut maintenir le principe d'un service public. Pas celui d'aujourd'hui, mais ça c'est aussi la responsabilité du politique. C'est un service public qui est le patron. Voilà, ils ont laissé dériver, ils laissent. Mais on a besoin, ça a été très bien dit pour l'international, on a besoin quand même d'avoir une voix pour la France qui puisse porter, qui puisse aller à l'international, y compris au national.
Ça justifie l'existence de France Média Monde.
Oui, alors après, quand on va à l'étranger, on a plusieurs chaînes qui sont des chaînes issues du service public à l'étranger. Peut-être qu'on n'a pas besoin d'en avoir plusieurs. Donc il y a sans doute des économies à faire, mais le principe d'un service public, de l'information, ne me choque pas. Le tout, c'est que le patron fasse son boulot de patron, et aujourd'hui il ne le fait pas, ça doit être aussi du pluralisme. Aujourd'hui, à l'évidence, il n'y a pas le pluralisme. Le matin, pour m'énerver, je mets France Info.
Si vous mettez France Inter, par exemple, vous mettez une chaîne qui, à mon humble avis, est totalement aberrante, puisqu'elle est arrivée...
Vous parlez de France Info TV
De France Info TV.
Non, je parle de France Info. De plateaux sur France Info TV. Je trouve que les débats sont quand même de qualité.
Absolument. Mais Jean-François, juste un mot. France Info TV, c'est 0,9% d'audience, sauf lorsque Philippe Charlez y va, parce que alors là, à ce moment-là, ça explose.
C'est gentil.
Mais sur 2005, en moyenne, c'est 0,9% d'audience. Cette chaîne est arrivée alors qu'il en existait déjà trois autres en France, trois chaînes d'infos, ce qui était déjà un record en Europe. Aucun pays d'Europe n'a autant de chaînes d'information, on en a créé une de plus.
On est tout à fait
par la volonté de François Hollande, qui évidemment n'arrive pas à avoir d'audience, cette chaîne France Info TV. Donc on est vraiment dans l'aberration du service public, dans toute sa splendeur, soumis aux politiques, aux caprices, et payé par le contribuable.
Une dimension aussi dont on parlait tout à l'heure avec Joseph Touvenel, les jeunes qui regardent de moins en moins la télévision. Et ça aussi peut-être à prendre en compte. Dans cette économie, France Info devrait être mis avec France 24, etc. Il faut être des rapprochements, France 2 avec France 5. tout ça est absolument grotesque. Moi, je me souviens de regarder à Radio France. Radio France, vous aviez les radios dans tout l'Hexagone. Ça s'appelle France Bleu. France Bleu Berry, France Bleu Limousin, France Bleu, etc., etc. Et ça, les gens, ils sont très attachés. C'est la culture locale, la presse de proximité.
C'est France 3, hein, France 3,
ça marche très bien. France Bleu, France Bleu, c'était la radio.
Ah, France Bleu,
c'était
oui,
la radio.
Pardon,
France Bleu.
Oui, oui.
Et Madame Pigalle, qui s'occupait de ces radios, maintenant, ça s'appelle Ici.
Voilà.
Pour transformer France Bleu en Ici, ça a coûté des millions d'euros. Mm. Juste pour changer les logos. Rien n'a changé. Et c'est ça, on parle de mauvaise gestion et de stupidité. Là, c'en est l'illustration parfaite.
Donc, il y a un peu de boulot.
Charles Allonge, il a eu une très bonne expression. Charles Allonge, je lui dis, mais il faut conserver un service public, mais il faut arrêter d'ouvrir la privatisation telle qu'elle est aujourd'hui. Et il a raison, parce que quand on voit la sous-traitance...
Ouvrir la privatisation, ben oui, qu'est-ce que vous voulez dire?
La sous-traitance massive,
oui.
9000 salariés... et une sous-traitance massive pour produire les émissions, il dit, mais c'est de la privatisation, ça.
Oui,
et il a raison.
Et puis surtout avec
quand c'est confié à l'extérieur.
Et surtout avec de la sous-traitance, on va dire, entre guillemets,
entre quelques...
incestueuse.
Et puis entre quelques rares mains. Mais il a raison de prendre cette expression en disant, attendez, la privatisation, vous la faites. Quand vous confiez à des gens qui ont des intérêts politiques.
Bah là, y a un exemple qui vient de sortir, c'est celui d'Hugo Clément. Hein, qui est un environnementaliste bien connu.
Un animateur de télévision.
Voilà, et qui est en même temps un animateur de télévision et qui a gonflé sa compagnie avec uniquement des fonds publics.
Il faut faire attention parce que, regardez, lorsque certains animateurs comme
Presque
Nagui...
pour terminer, j'ai
encore
une
comme
question.
Nagui, par exemple, qui est animateur, mais il est aussi producteur. Et les gens, là, gagnent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Je veux dire, animateur, vous avez un salaire, c'est...
Oui, mais il rapporte plus encore que ce qu'il gagne, hein, donc c'est quand même un souci.
Paraît-il. Hein. Et la publicité, il faudra en parler, la publicité, pourquoi il y a publicité sur Radio France, sur France Inter? On avait de la publicité institutionnelle, ça ne devait pas dépasser 15 millions d'euros par an. Maintenant, on en est à 20 ou 25, on a publicité sur les voitures, ce n'est pas une chaîne privée.
Non, mais si
alors
on...
comment laisser vivre les chaînes privées? Ils vivent que de la pub, ils ne vivent pas de l'argent public. Oui, il y a tout ça à revoir, quoi. Ce qu'a très bien dit à l'oncle.
Justement, vous savez que le principal adversaire de la privatisation de la télévision publique...
Ce sont les privés, bien sûr.
Ce sont les télévisions privées, parce que, évidemment, si c'est privatisé...
Le gâteau devra être partagé.
Le gâteau publicitaire devra être partagé.
C'est un gâteau qui n'est pas extensible.
C'est un gâteau qui n'est pas extensible. Allez, j'avais une dernière question pour vous. Est-ce que la méthode à l'oncle va faire... tache d'huile, et je voulais qu'on écoute Éric Ciotti, là, il annonçait que son parti, l'UDR, demandera une commission d'enquête sur l'immigration.
Le coût de l'immigration.
C'était hier sur CNews face à Laurence Ferrari.
Notre groupe, comme je l'avais fait sur l'audiovisuel public, va lancer une commission d'enquête sur le coût de l'immigration. Il faut qu'on ait la vérité des chiffres, parce qu'on nous ment depuis des années. On nous dit qu'on a besoin d'immigration pour travailler, mais ceux qui arrivent ne viennent pas travailler. Et ils représentent aujourd'hui une charge lourde, trop lourde, pour notre pays. Et M. Macron est le premier responsable de cette situation.
Éric Ciotti et son inimitable accent.
Alors,
donc, est-ce que la méthode Ciotti va faire tache d'huile? Est-ce que c'est nécessaire, à votre avis?
Je vais simplement dire que sur le sujet, on a déjà la réponse. Je vous renvoie sur l'excellent rapport qui avait d'ailleurs été commandé par les Républicains à l'Observatoire de l'immigration, Nicolas, dont je ne me rappelle
plus. Pouvremonti.
Voilà. Mmh. Et donc, il a évalué le coût annuel de l'immigration à 50 milliards d'euros.
40, non? 41, non, il me semble, c'est 41 milliards.
Okay, on est hors de grandeur, c'est quand même significatif.
Ah bah, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. C'est plus que significatif.
Et donc c'est une étude très détaillée qui a été faite, donc il n'y a peut-être pas besoin de refaire une commission complète.
Sauf que ça sert quand même de caisse de résonance.
C'est vrai, c'est vrai.
Et puis que ça peut permettre de...
Joseph Touvenel.
L'immigration, il y a une immigration extra-européenne, mais il y a une immigration... européenne dont on parle peu et qui est dramatique, c'est tous ceux qui viennent des pays de l'Est. Alors, vous avez dit, je suis vice-président du Centre européen des travailleurs, je travaille beaucoup avec mes amis roumains, bulgares, etc. On ne sait pas que plus du tiers de la population active de la Roumanie, de la Bulgarie, de ces pays, travaille à l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ils essayent de se développer, qu'ils forment des médecins, qu'ils forment des ingénieurs, qu'ils forment des carreleurs, si nous les absorbons une fois qu'ils sont formés, comment voulez-vous que ces pays se développent?
Bien sûr.
On aura une réflexion à faire
européenne.
L'immigration
est un drame. pour le pays de départ et pour le pays d'accueil.
Et dernière,
le plombier polonais, souvenez-vous, et pour du ceux plombier qui... polonais il y a quelques années.
Absolument. Et comment peuvent-ils se développer si ceux qui sont formés, plus du tiers de la population active, c'est énorme. Et ce que je n'avais pas vu, c'est une Roumaine, la présidente du comité des femmes du syndicat Frère Cartel Alpha en Roumanie, qui dit, mais Joseph, tu ne vois pas le drame de ces enfants livrés à eux-mêmes parce que leurs deux parents travaillent en France, en Italie, en Allemagne. Et il y a maintenant des villages en Roumanie, en Bulgarie, qui sont peuplés d'enfants, d'adolescents et de personnes âgées. C'est dramatique pour l'avenir de ces pays.
Donc pour ou contre une commission d'enquête sur l'immigration, Joseph Touvenel?
Je suis pour, si c'est,
pour.
C'est le rôle du Parlement.
Philippe Charlès aussi, Jean-François Coulon-Désart, pour, contre?
Pardon?
La commission d'enquête sur l'immigration.
Mais pour, je vous l'ai dit. Je vous l'ai déjà dit, bien sûr. Sur le coût de l'immigration, bien sûr qu'il faut
le
faire.
Il a bien dit sur le coût de l'immigration, pas sur l'immigration.
Oui. Absolument, sur le coût de l'immigration. Allez, quelques mots d'auditeurs avant de passer à notre clin d'œil culture. Un auditeur nous dit, la privatisation de chaînes de télévision intéressera-t-elle des investisseurs? La télévision n'est pas un secteur d'avenir, les jeunes ne la regardent plus. Alors c'est vrai que les jeunes ne la regardent plus, il a tout à fait raison, notre auditeur, malgré tout, ça quand même, ça intéresserait des investisseurs, c'est évident, à partir du moment où elles ont des bénéfices. Elles
oui, mais
bénéfices.
Regardez, le
ce
journal...
Ce qui est le cas de beaucoup de télévisions.
Le journal de 20h, c'est un moment où vous avez des millions de Français qui sont devant leur poste et qui ont la même information au même moment. Et ça, ça reste un socle quand même. Parce que sinon, on a des bribes de réseau, de machin, etc. On a le même truc à même moment. Parce que si vous n'avez pas la même...
C'est ça qui se délite,
mais oui, mais ça, il ne faut pas que ça se délite. Parce que sinon,
c'est trop tard.
Non, je n'ai jamais trop tard.
Alors, un autre auditeur nous dit, je voulais surtout dire que le fait d'employer obligatoirement au SMIC pour n'importe quel travail n'est pas judicieux et surtout empêche de donner un bon salaire à ceux qui se donnent beaucoup dans leurs tâches. Résultat, les employeurs payent au SMIC et n'arrivent pas à augmenter une partie du personnel qui se démotive en définitive, surtout si l'effectif est important.
Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne raison.
Joseph Touvenel.
En fait, le SMIC est quasiment intégralement défiscalisé. Et ce qui fait que si on augmente le salaire, à un moment donné, on passe une barre et le coût du travail pour l'entreprise devient considérable par rapport à ce qu'il y a. Il y a un vrai problème là.
Alors, un dernier auditeur qui nous dit, ça c'est pour Joseph Touvenel, il apprécie énormément, et c'est souligné deux fois par Martine, Joseph Touvenel, il tient à ce que cela soit dit, et bien voilà, c'est dit, cher auditeur, il aimerait que Joseph Touvenel soit réinvité, et bien je vous promets, nous réinviterons Joseph Touvenel.
Merci à cet auditeur.
Voilà, peut-être pas chaque semaine, mais il reviendra, j'espère, le plus
vous avez votre
onde
serviette maintenant.
Voilà. Allez, notre petit clin d'œil culture.
Reste en courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Et avec Philippe Charlès, Jean-François Coulon-Désart et Joseph Touvenel, je ne sais pas, il parle.
Allez, je vais essayer de me cultiver.
Allez, cultivez-vous, restez avec nous, cher Joseph, vous êtes le bienvenu. Par qui on. Qu'est-ce qu'il veut Philippe Charlès.
Oui,
allez,
alors.
Qu'est-ce que vous nous recommandez cette semaine?
Alors, j'ai été coup sur coup visiter d'abord le Art Paris, qui se passait au Grand Palais, et puis après Art Bruxelles, qui se passait à côté du Heysen à Bruxelles. Et je dirais qu'en comparant.
Donc, ce sont deux expositions
d'art moderne, d'art contemporain plutôt, pas d'art moderne. Et je dois dire que je conseille beaucoup plus Art Bruxelles, qui est beaucoup plus intimiste, avec moins d'exposants, moins de galeries, et un rapport aux galeristes beaucoup plus intéressant, beaucoup plus direct et beaucoup plus facile. Je trouve qu'en ouvrant le premier étage du Grand Palais, Art Paris est devenu une véritable usine.
Ah oui, et vous aviez, je crois, un peu crossé, si j'ai bonne mémoire.
Oui, je vous avais envoyé
que vous aviez trouvé assez nul.
Quelques toiles assez nulles, oui, alors pas
c'est
tout,
ça.
Mais il y en a quelques. L'art contemporain, ça peut
l'art
être n'importe quoi.
L'art contemporain ou contemporain
Jean-François Coulon-Désart.
Ouais, d'accord.
Jean-François Coulon, j'ai un défi pour vous, 20 secondes.
Voilà, alors écoutez, c'est une femme, elle est originaire de la Mitteleuropa. Elle a fasciné ses contemporains, elle parlait sept langues, elle a été l'inspiratrice de Proust, l'amie de Cocteau, elle s'appelait Hélène, elle est née Chrysoloveni, grande famille grecque, elle a épousé le prince Uzzo, et puis elle a divorcé, puis elle a épousé un monsieur absolument incroyable qui s'appelle Paul Morand. Donc, faut-il préciser,
Morand,
voilà,
le
écrivain vedette des années folles. Ouais. Et il y a un bouquin qui sort sur leur couple qui s'appelle Hélène et Paul Morand, c'est signé David Bonneau, c'est chez Plon. Et c'est absolument formidable. Cette femme était absolument incroyable. Derrière chaque grand homme, il y a une femme. Mais alors là, elle y est. Donc, lisez, elle est où la caméra? Parce qu'il paraît qu'on est filmé maintenant. Détestable.
Hélène
et Paul Morand. Voilà. C'est un livre formidable.
Un couple sulfureux.
Voilà.
C'est un livre absolument
formidable. Chez Plomb.
Chez Plomb.
Voilà.
Voilà. Très, très bien vendu. Bravo. Quel talent. Seul Jean-François Coulon-Désart est capable de faire ça. Et moi, j'ai un petit livre très rapidement. Le mystère Le Pen de Hubert Coudurier qui vient de paraître chez Plomb également. Alors évidemment, inutile de dire que le personnage de Marine Le Pen va susciter un peu l'intérêt dans l'année qui vient. En tout cas, elle est un peu à l'heure du jugement, c'est ce que nous dit Hubert Coudurier. Et il fait une plongée en eau profonde dans l'univers de la leader du Rassemblement National, qui est un peu à la croisée des chemins, ses rapports avec Bardella, Marion, l'Empire Bolloré. Je ne l'ai pas encore lu, pour être tout à fait franc. 350 pages. C'est un livre qui n'est pas partisan, pas hostile non plus, mais dès que je l'ai lu, je reviens vers vous.
Moi, je l'ai lu. C'est chez qui?
C'est chez Plomb.
Le vôtre?
Chez Plomb, également.
Ah bah c'est Plomb. Le quart d'heure Plomb sur RC.
Absolument. Joseph Touvenel, une petite recommandation en deux secondes.
Oui, peut-être un livre qui est déjà sorti il y a quelques temps, qui s'appelle Padré, coécrit par Frédéric Ponce, et sur le Padré de la Légion étrangère. C'est un très très beau livre, c'est un très grand homme.
Sur l'aumônier de la Légion étrangère, c'est ça.
Qui est un gars extraordinaire, qui n'a pas fait que la Légion étrangère. Il a vécu en Afrique, quasiment seul, à certains moments. C'est vraiment un livre d'une grande humanité, d'une grande sagesse, c'est un livre très français.
Et édité chez... Il ne l'a plus. Pas vrai, on trouvera.
Chez Plomb.
Je ne sais pas. Allez, restons courtois du vendredi, c'est fini. Merci à vous tous. Merci à la technique qui nous a accompagnés. Merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis, accompagnés, commentés. Heureux d'avoir passé ces deux petites heures en votre compagnie. Comme Boulevard Voltaire, Radio Courtoisie, vous le savez, reste un miracle permanent et fragile qui ne vit que de dons. Aider Radio Courtoisie, aider Boulevard Voltaire dans le climat actuel, c'est un devoir. Nous, on se retrouve le vendredi 7 mai, le vendredi 7 mai, même heure, même adresse, restons courtois, 17h30,
19h30, on est le 1er mai aujourd'hui, donc
le vendredi 8 mai, vous avez raison, Philippe Charlès a raison, comme d'habitude, donc 17h30, 19h30 sur Radio Courtoisie avec Boulevard Voltaire et toute la joyeuse bande. Ça sera une émission exceptionnelle avec le député européen Nicolas Bay. On parlera notamment de la lutte contre l'organisation des Frères musulmans. Ne ratez pas cela, ça va être formidable. Je ne sais pas vous, mais nous, on a déjà hâte.
Ça suffit maintenant.